Vous êtes bien à l'écoute de Fracture 95.9 sur Radio Pulsar. On vient de s'écouter Dande, une pièce du groupe Portavoz. Maintenant, Robin, tu vas nous faire une chronique internationale parce qu'il y a quelques jours, des orgas d'anard se sont retrouvés sur les internets.
Oui, effectivement. Alors, c'était samedi dernier, le 11 avril, qu'a eu lieu une visioconférence diffusée en direct et publiquement sur Internet, qui était assez inédite puisqu'elle a rassemblé autour d'une table virtuelle des représentants de plusieurs organisations anarchistes communistes venant de différents pays, à savoir l'Irlande, les États-Unis, le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud et la France. Alors, l'objectif de cette rencontre était évidemment de discuter de la situation actuelle à un niveau international, mais aussi de présenter le point de vue des libertaires sur cette période de crise et les conséquences que cela va avoir et que cela entraîne déjà sur le fonctionnement de nos sociétés.
Alors, quels points ont été abordés en particulier ?
Alors, les intervenants ont tout d'abord échangé sur la façon dont les gouvernements ont réagi à la pandémie. Et cela a permis de mettre en évidence un comportement qui est assez répandu dans les hautes sphères des États, c'est-à-dire la fâcheuse tendance à protéger en priorité les intérêts économiques au détriment de la santé des travailleuses et des travailleurs. Mais au final, ça ne surprendra personne. Alors par exemple, Warren, qui représentait la Salabasa Anarchist Communist Front, donc une organisation en Afrique du Sud, expliquait que le gouvernement sud-africain utilisait l'argent destiné à l'assurance chômage pour renflouer des entreprises déstabilisées par la crise sanitaire. Concernant le matériel de protection, si le gouvernement a distribué des masques aux travailleurs des secteurs produisant des biens jugés essentiels au quotidien, ce n'était pas le cas pour beaucoup d'autres entreprises dans lesquelles les salariés doivent continuer à travailler dans de très mauvaises conditions sanitaires, alors même que ces activités ne sont en rien essentielles. Et cela, évidemment, sans aucune réaction de l'État. Donc ce constat a été fait également par ISRA, qui représentait l'organisation Solidaridad au Chili, où il racontait que le gouvernement tentait lui aussi de protéger l'économie, par exemple en instaurant qu'un confinement partiel dans la capitale, Santiago, c'est-à-dire dans seulement certains quartiers. Le gouvernement prétend également protéger les emplois, mais les dispositifs d'aide financière aux entreprises ont surtout pour but de perfuser l'économie et cela n'empêche pas au final les licenciements. Le cas des États-Unis est également assez intéressant. Alors là, c'était un représentant de l'organisation Black Rose Anarchist Federation qui a souligné cette contradiction que effectivement aux États-Unis, malgré le fait qu'il s'agisse d'un pays un des pays les plus puissants économiquement et militairement, donc ce qui suppose a priori un gouvernement fort, un État organisé, coordonné et fort, eh bien la réponse à l'épidémie n'a pas du tout été coordonnée au niveau national. Ce sont les États qui, individuellement, ont dû réagir un peu de leur côté, de la façon qu'ils jugeaient être la bonne. Donc certains États ont pris des mesures drastiques, tandis que d'autres n'ont par exemple toujours pas pris de mesures de distanciation sociale. Alors pour finir ce premier tour d'horizon, on va parler un peu d'Irlande. Et il y avait aussi un représentant de ce pays-là, il faisait partie de l'organisation Workers Solidarity Movement, et il expliquait que le gouvernement irlandais a lui-même eu du mal à anticiper effectivement le danger que représentait le virus et qu'il a réagi un petit peu comme tous les autres États et gouvernements, c'est-à-dire en se souciant tout d'abord de l'activité économique, notamment celle liée au tourisme. En revanche, il y a eu une forte mobilisation de la population, notamment autour de la marche du 8 mars, pour demander des actions efficaces pour contenir l'épidémie. Donc les petits pubs ont fermé aux alentours du 14 mars, et puis les plus gros et les entreprises plus importantes ont suivi quelques jours après. Et alors il est intéressant de noter que tout ceci s'est produit avant même que le gouvernement ne demande et n'impose officiellement ces fermetures, ce qui montre bien que finalement nous n'avons pas forcément besoin d'un État pour imposer des mesures qui seraient pour notre propre bien. Cette population a d'elle-même pris ce genre d'initiative. Alors, il faut savoir aussi qu'en Irlande, des élections ont eu lieu peu de temps avant le confinement et qu'aucun parti n'a obtenu de majorité pour pouvoir prendre le pouvoir. Donc il y a actuellement encore des négociations pour mettre en place le nouveau gouvernement, ce qui fait que cette situation est plutôt une bonne chose pour la population, car en face, il n'y a pas de gouvernement fort et organisé, et la classe politique est un peu obligée de céder devant les demandes de la population.
Alors du coup, justement, du côté des populations, comment est-ce qu'elles ont réagi? Comment dire, est-ce qu'il y a eu des formes d'organisation qui ont émergé?
Alors oui, effectivement, les populations ont, elles, réagi de leur côté à leur façon et de différentes façons si on regarde les différents pays. Donc là, on parlait justement de l'Irlande. Alors je vais terminer là-dessus. La population, donc on l'a dit, a été très mobilisée depuis le début. En particulier, les premiers à avoir agi sont les populations les plus marginalisées, qui se sont senties particulièrement exposées en raison évidemment des conditions de grande précarité dans lesquelles elles vivent. Et par exemple, le 6 mars, il y a eu des protestations des demandeurs d'asile qui vivent dans des centres d'hébergement où ils sont entassés à 5 ou 6 dans une même chambre et où le virus peut se propager très rapidement. Donc on a aussi les organisations qui viennent en aide aux sans-abri et aux Irish Travellers, qui sont des populations nomades en Irlande, qui ont fait entendre leur voix à ce sujet-là. Et du côté des syndicats, ils ont également été assez réactifs en se préoccupant assez tôt, au tout début du mois de mars, sur les risques encourus par les travailleuses et les travailleurs sur les lieux de travail, donc face à cette épidémie. Donc, puisqu'on parle des syndicats et de l'action sur le terrain, sur les lieux de travail, il est assez important de préciser effectivement qu'il y a eu de nombreux mouvements de débrayage et de grève à travers le monde qui se sont produits dans tout un ensemble de pays, soit pour réclamer du matériel de protection, soit pour exiger purement et simplement l'arrêt de la production. Alors c'est le cas notamment aux États-Unis, où les infirmières se sont mobilisées contre le manque de matériel de protection et où il y a eu des grèves dans des grandes entreprises comme par exemple UPS ou Amazon. Alors si on passe maintenant à l'Afrique du Sud, là-bas, la classe ouvrière a réagi de façon un peu désorganisée, on va dire, et les réactions étaient assez localisées. Alors l'intervenant précisait que bon, en Afrique du Sud, mais finalement comme dans bien d'autres pays, les organisations de travailleurs sont assez faibles en ce moment. D'ailleurs, elles n'ont jamais été aussi faibles, mais bon, ça s'observe un petit peu partout dans le monde, que ce soit les syndicats ou les organisations communautaires. Et le problème, c'est qu'en l'absence d'organisations fortes de ce type-là, cela rend plus difficile une réaction collective rapide dans de telles situations. Par contre, si on va voir du côté du Chili, dont on parlait justement un peu plus tôt, on observe une importante organisation de la population pour faire face à cette crise sanitaire et politique. Après, au Chili, le contexte est bien particulier puisque le pays est secoué par des révoltes, notamment depuis octobre 2019, et ce contexte a favorisé le passage à l'action des classes populaires. Il y avait déjà un certain nombre d'assemblées de quartiers, des assemblées communautaires pour s'organiser et lutter contre les politiques néolibérales, donc qui étaient déjà mises en place à l'époque. Et ces assemblées ont facilité la mise en place d'actions de solidarité, comme des coopératives permettant l'approvisionnement en nourriture, en biens matériels de base, des circuits courts entre la population et les producteurs. Donc voilà, ces assemblées, ces réseaux d'assemblées qui étaient déjà mis en place ont permis de réagir beaucoup plus rapidement face à cette crise sanitaire. Il y avait aussi, par exemple, un réseau de solidarité appelé le Movimiento de Salud y Asistencia, dont le but est d'aller dans certains quartiers pour apporter de l'aide médicale et de l'aide sanitaire. Et il y a de nombreuses personnes qui travaillent dans le secteur public qui, après avoir terminé sa journée de travail, hein, qui peut être une journée assez longue de 8 heures, 10 heures ou 12 heures de travail, et bien après, ces personnes-là se rendent dans les quartiers pour simplement aider les gens. Et au Chili, évidemment, le mouvement féministe est particulièrement fort, développé et puissant. Et tout un réseau d'entraide contre les violences faites aux femmes, dans cette période de confinement a également été mis en place. Et pour terminer, on retrouve effectivement des initiatives similaires aux États-Unis, que ce soit des réseaux d'entraide et de solidarité, d'assistance alimentaire, comme des réseaux d'assistance aux personnes victimes de violences conjugales. Donc, là-bas, aux États-Unis, toutes ces initiatives sont locales, il n'y a pas vraiment de coordination à grande échelle, mais ce modèle d'organisation fleurit un peu partout et finalement se développe assez rapidement.
Merci pour du coup la recension des différentes initiatives. Mais bon, concrètement, ces organisations anarchistes communistes qui se sont réunies, est-ce qu'elles avaient des choses concrètes à proposer pour faire face à la fois au virus, au Covid-19 et à l'État?
Alors oui, effectivement, le but de cette conférence était aussi de porter un discours libertaire, un discours anarchiste-communiste face à cette situation. Alors bon, là, personnellement, moi, je dois avouer que j'étais un petit peu déçu. Je suis resté un petit peu sur ma faim. Après, c'est vrai que peut-être que naïvement, j'attendais des révélations miraculeuses, voilà, des solutions idéales sur comment organiser les classes populaires et mener à bien une révolution sociale et libertaire. Bon, évidemment, rien de tel, non, rien de miraculeux. Mais en revanche, bon, les intervenants étaient d'accord pour dire que l'action à mener aujourd'hui, finalement, c'est la même que celle qui doit être menée, enfin qui était menée et qui doit continuer d'être menée, donc qui était menée avant le confinement et qui est toujours aussi pertinente aujourd'hui en période de confinement. C'est-à-dire que pour combattre l'autoritarisme et le capitalisme, il faut développer des solidarités concrètes à la base, dans les quartiers, sur les lieux de travail, et pour au final construire un vrai contre-pouvoir populaire. Donc un autre enjeu qui était mis en avant, c'est qu'il faut vraiment essayer de contrer en fait le discours qui est porté par les gouvernements, de démasquer un petit peu les mensonges d'État et de déconstruire les fausses vérités qui sont diffusés dans les médias dominants et qui tendent à façonner finalement une vision un peu biaisée de la réalité pour ensuite nous faire avaler plus facilement des lois liberticides et qui sont socialement régressives. Donc tout ce travail de contre-discours, bah, finalement nous à travers cette émission, on essaye un petit peu d'y contribuer.
Ouais, c'est sûr qu'on essaye aussi de faire ça au jour le jour. Juste pour conclure, un dernier mot du coup sur cette rencontre.
Oui, alors pour conclure rapidement, même si effectivement avant j'ai peut-être été un petit peu critique sur les propositions avancées, bon, ça restait quand même malgré tout très intéressant et ça a été assez constructif. Donc ce type d'événement vraiment était assez intéressant en soi et assez unique finalement. Ça a permis d'avoir un tour d'horizon assez large de la situation au niveau international. Il y en avait quand même plusieurs continents qui étaient représentés. Et au final, ce qui ressort, c'est vraiment cette incroyable offensive des États et des puissances financières qui profitent de cette crise pour pousser encore plus loin l'autoritarisme et l'exploitation de la classe ouvrière. En France, on se souvient du discours martial de Macron qui nous disait que nous étions en guerre et qui lançait un appel à l'union sacrée. Bon, je pense qu'on peut juste lui dire que oui, on est en guerre, mais il s'agit d'une guerre sociale et qu'il n'y aura certainement pas d'union entre les classes.
Ça c'est sûr, et c'est le message qu'on porte aussi tous les jours dans l'émission. Eh ben merci Robin pour cette petite chronique internationale. On va s'écouter un petit peu de musique et puis on se retrouve tout à l'heure.
Deux, trois, deux, trois.
Dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Fantomas, mais c'était la lutte des classes. Un poulet élève invite y porter une marmite qu'était un renversement et la retourne imprudemment. Le brigadier, le commissaire, mais les autres poulets vulgaires partent en fragments et part qu'on retrouve sur un buvard. Contrairement à ce qu'on croyait, y en avait qui en avait. L'étonnement est profond, on peut les voir jusqu'au plafond. Voilà bien ce qu'il fallait pour faire la guerre au palais. Sache que ta meilleure amie, prolétaire, c'est la chimie. Les socialistes n'ont rien fait pour abréger les forfaits de la famille capitaliste, mais heureusement bien l'anarchiste. Il n'a pas de préjugés, les curés seront mangés. Plus de patrie, plus de colonie, et tout le pouvoir il le nie. Encore quelques gros efforts, et disons qu'on se fait fort de régler radicalement problème social en suspens. plus des bons enfants. On vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre au plus offrant. L'avenir à Dieu prend place et le vieux mandat. La cassade.